Je propose qu'on amorce tout de suite le débat, vos questions.
Je reviendrai peut-être sur l'état, c'est-à-dire de parler de manière célébrée.
Alors, juste un mot, est-ce qu'on entend, on entend bien?
On va formuler la question.
Ah oui.
Peut-être que là, on va parler.
D'accord,
Alors,
d'accord.
moi, je suis convaincu depuis des années de la richesse des textes et moins de la manière de célébrer. Est-ce qu'on peut vraiment simplement dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux? Peut-être. Est-ce qu'on peut dire que les textes sont merveilleux, sont plus contemplatifs, plus escapologiques, mais par contre, c'est seulement un problème de la manière de célébrer. J'essaie d'être critique là. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose, des textes qui a dégagé la manière dont on a finalement célébré ces textes? C'est une question que je me pose en fait.
Donc, le frère Simon revient sur la distinction entre les textes mêmes et puis la manière de célébrer. On a souligné l'admiration du chanoine allemand par rapport au texte. Le père Douin a dit qu'autre chose était les textes et puis leur mise en œuvre. Et donc, la question est, est-ce qu'il n'y a quand même pas un rapport entre les textes mêmes et la manière dont ils ont été ou dont ils sont mis en œuvre?
Alors, vous avez raison, je pense que cette distinction, elle est peut-être un peu facile, un peu excessive. Ce qui me semble certain, mais je ne suis pas sûr que je vais répondre sur le fond, mais je vais répondre, c'est que on peut célébrer, j'avais écrit un article là-dessus, ça m'a été reproché parce que j'avais dit, la liturgie selon Vatican II peut être belle. On peut célébrer avec une grande dignité la liturgie de Vatican II. Mais, alors ça c'est une conviction personnelle, ce n'est pas le même éthos qu'on appelle hein, célébratoire, le même style que l'ancienne liturgie. Ça je le tiens également de François Cassin-Jenna. Je prends deux exemples parce que c'est assez difficile. Moi j'ai été marqué par deux personnes, le cardinal Lustiger, qui était un homme de Vatican II, un héritier de Bouillé, célébrait admirablement. Et il célébrait selon Vatican II. Alors, très nettement, ce n'était pas un homme de l'ancienne liturgie. Il était même. Et ce n'était pas uniquement lié à la personnalité exceptionnelle, etc. C'était lié à une inhabitation tout à fait adéquate, finalement, de la noble simplicité, parce que c'est ce que nous dit. Le Concile Vatican II, c'est une des difficultés. Le Concile de Trente nous donne, avec le Ritus Servandus, des précisions extrêmes sur même la manière dont on doit mettre les yeux, les mains, etc., les yeux baissés et tout, alors que le Concile Vatican II, eh bien, nous parle simplement, nous dit, de célébrer avec une noble simplicité. Et François Cassin-Jenna nous dit, lui qui a pratiqué les deux, que c'est plus difficile de célébrer selon Vatican II que selon l'ancienne ordo. Et puis l'autre personne, parce que j'évoque des personnes, parce que la liturgie, c'est. Et parce que là, on passe du texte à l'action, c'est une action. C'est Louis-Marie Chauvet qui baptise. Alors, c'est un théologien du baptême, mais quand il baptisait, c'était absolument admirable. Et là aussi, parce que je pense, c'était pas simplement, c'est pas un savoir-faire, c'est-à-dire, c'est une inhabitation profonde de ce théologien du baptême. Hein, Chauvet, c'est vraiment un théologien de l'initiation chrétienne, eh bien, de ce que signifie cette liturgie. Alors, c'est vrai que très souvent, je me méfie, hein, parce que les tenants, entre guillemets, de la liturgie rénovée dont je suis, les héritiers du mouvement liturgique, quand on est un peu appris en défaut, on se dit, bah oui, la question, c'est une question d'art de célébrer. Mais le pape François, dans Desiderio Desideravi, insiste énormément sur l'art de célébrer. C'est-à-dire, l'art de célébrer, c'est la manière dont, et qui n'appartient pas qu'au président, au prêtre, hein, il y a aussi les fidèles, mais le président a un rôle éminent, dont eh bien, nous donnons ou non la chance au symbole. Hein? Le pape François et Benoît XVI disaient la même chose, hein, citant Guardini, disaient eh bien, il faut donner leur chance au rite et leur symbole, et redevenir, pour les fidèles, mais pour nous tous, redevenir capables de symboles. Ça, c'est le regard contemplatif, hein, ne pas regarder les choses à la surface. Donc, alors, l'exemple classique, vraiment classique, mais qui est fondamental. Si vous célébrez selon Vatican II un baptême avec trois gouttes d'eau, ben, ça ne fonctionne pas. Comment voulez-vous habiter le rite si vous ne donnez pas le sens à la puissance de l'eau? Alors que précédemment, je vais me laisser aller, mais dans l'ancien rite, puisque tout était, il y avait énormément d'exorcismes, etc., finalement, les rites périphériques, et ce n'est pas une critique et tout, mais rendaient ce rite essentiel, ben, si, c'était une question de validité, mais s'il était moins signifiant, c'était moins grave. Vous voyez? Donc là, c'est vrai qu'il y a une exigence de qualité célébratoire qui est quand même très forte. Et ce n'est pas simple, hein.
C'est même très exigeant pour le prêtre.
C'est très exigeant.
Surtout qu'il est face à l'Assemblée.
Alors, surtout qu'il est face à l'Assemblée. Je vous répète pour que nos auditeurs
Et ne
entendent.
parlons pas des concélébrants. Qu'est-ce que c'est dû, à mon avis, d'être concélébrant? C'est-à-dire d'être concentré sur, comme le prêtre, sur ce qu'il fait, ce qu'il dit. Parce que nous, on regarde les concélébrants de façon plus.
Ah ben, le vicaire général, il est toujours concélébrant son évêque, hein. Donc voilà, pendant la messe chrismale, ça va durer 3 heures. On va tâcher de faire bonne figure. Mais c'est vrai, non, vous avez raison. Alors, vous abordez la question, d'abord pas le chanoine allemand, mais la question du vis-à-vis. C'est là où la limite des textes, de l'examen des textes, et Dieu sait, moi, en tant que théologien de la liturgie, en tant que théologien, j'essaye de faire de la théologie à partir des textes, parce que, mais ça ne suffit pas. Parce que si on veut vraiment prendre au sérieux la liturgie comme lieu théologique, il faut le faire par rapport à une action liturgique. Et c'est pas, ce ne sont pas des textes. Hein. Mais j'ai perdu mon idée. Ben, ce n'est pas grave. C'est qu'elle n'était pas très importante.
Je dis aussi parce que le fait d'être face à l'Assemblée.
Oui. Non, alors voilà. Non, ce qui a été retenu souvent justement dans la réforme liturgique, c'est le changement de position du président et le passage du latin au français qui change aussi l'atmosphère profondément. Et le risque d'une. C'est vrai que c'est beaucoup plus exigeant quand vous êtes face à l'Assemblée. Et le risque réel, alors là pour le coup très réel, c'est de passer à une posture d'animateur télévisuel. Ça, c'est vraiment un risque. Moi, j'ai écrit parfois, mais surtout sur les questions d'aménagement liturgique, qu'on était passé d'un paradigme théâtral, la messe tridentine, hein, et pour moi, le théâtre, c'est plutôt positif, c'est pas un paradigme télévisuel. Je préfère le théâtre sur ce plan-là. Donc, ça, c'est un risque réel. Donc, c'est plus exigeant pour le célébrant, pour le président, puisque, avec Vatican II, tout le monde est célébrant. Donc, on ne doit plus parler du célébrant. Mais ça, c'est. Voilà.
Mais ce qui peut nous aider par rapport à ce que tu viens de souligner, la difficulté qu'il y a à célébrer face à l'Assemblée, me semble que là aussi c'est un regard contemplatif et un regard de foi. C'est-à-dire, si je suis convaincu, parce que le Seigneur l'a dit, que lorsque nous sommes deux ou trois à nous rassembler en son nom, il est là au milieu d'eux. Comprenez, être tourné vers l'Assemblée, ça n'est pas se détourner de la croix ou se détourner du bon Dieu. Non, il est là, au milieu d'eux. Si nous avons cette conscience de la présence, ça suppose que l'Assemblée elle-même soit honorée comme elle doit l'être, mais si nous avons cette conscience de la présence du Seigneur au milieu de son Église, on ne perd rien. Enfin, si on perd toujours un peu quelque chose, je vous dis, il y a sans doute une complémentarité, une messe célébrée de façon orientée, ça avait son sens aussi, ça, je ne veux pas trop poser les choses. Mais en tout cas, on ne tombe pas nécessairement dans le
Ah non, non, ah
télévisuel
non, non,
en
ah non,
célébrant
ah non, non.
face à l'Assemblée.
Ouais, je peux vous assurer que le cardinal Lustiger, je prenais cet exemple-là, ce n'était pas un animateur de télévision quand il célébrait la messe. Je vais donner un exemple, c'est les liturgistes, qui moi m'a impressionné. Le pape Jean-Paul II, quand il élevait l'hostie, hein, eh bien, il ne regardait pas l'hostie, il regardait l'assemblée. C'est très, très impressionnant. C'est-à-dire que le corps
Oui,
du. Non, 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 même quand il était jeune. Le corps du Christ, il est au moins autant, pas sur la même mode, dans le corps ecclésial, dans la nef, que dans le Saint-Sacrement. Ça, c'est augustinien.
et Thomiste.
Et Thomiste, alors je ne veux pas. Voilà. Donc, vous voyez, et c'est très impressionnant, hein, parce que le pape Jean-Paul II était plutôt classique, avec une spiritualité eucharistique forte, heureusement, etc. Mais ben toujours, même quand il était jeune, parce qu'à la fin, il ne pouvait plus élever le pauvre. Hein, mais c'était, et ça, c'est très. Vous regarderez toutes les photos, c'est très net. Et je pense qu'il avait un regard contemplatif sur l'Assemblée. Parce que l'Assemblée, ben c'est aussi le corps du Christ. Hein. Vraiment.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ou sinon, en visio? N'hésitez
Oui, en
pas.
visio, peut-être, parce que.
Est-ce qu'il y a des intervenants qui veulent, en visio, qui veulent, des personnes en visio qui veulent intervenir? Regarde, il y a une question dans la salle et puis une question en visio. Dans la salle et puis
C'est une question de détail de règles, mais est-ce que la liturgie de Paul VI impose le vis-à-vis?
non.
Non, donc en fait, ce n'est pas systématique en vis-à-vis.
Oui, donc la question posée est la suivante, est-ce que la liturgie de Paul VI impose le vis-à-vis dans la célébration?
Alors, la réponse est nettement non. Hein. C'est assez impressionnant d'ailleurs parce que la réception du concile s'est pratiquement systématiquement, universellement traduite par un retournement des autels. Le mot n'est pas très net hein, et pas très juste. Et un passage, par exemple, également du latin au français, alors que ce n'était pas explicitement demandé. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que la compréhension qu'a eue clergé, le peuple chrétien, l'Église, eh bien, de la participation active, il y avait eu des essais avant, s'est traduite par ce passage au vis-à-vis. Vous voyez, je travaille dans le domaine beaucoup de l'aménagement liturgique. On voit, alors, le Concile de Trente et le Concile de Vatican II, ce sont tous les deux traduits, les deux grands conciles de la modernité, par un changement profond de l'aménagement de l'espace liturgique, alors qu'ils n'ont rien demandé. Mais, même à 30, hein, on a cassé les jubés, ce n'est pas demandé. Hein. Et c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce qu'on appelle le phénomène de réception. C'est Gilles Routy, le Québécois, qui a travaillé sur la réception, le phénomène de réception, notamment. C'est-à-dire que la réception s'est traduite par ben voilà, le sens de l'Église s'est dit ben, il est plus. Ce que le Concile a demandé, c'est de favoriser la participation active. Et presque naturellement, c'est dit pour la favoriser, pour avoir un vis-à-vis qui a quand même un fondement, je ne veux pas, parce que le vis-à-vis valorise le caractère dialogal qui est structurel de la liturgie. Hein, pas non plus. La liturgie, elle est dialogale. Elle est aussi dialogale parce qu'elle est dialogue du Christ et de l'Église. Hein. Donc, mais vous voyez, hein, il ne l'a pas demandé, mais n'empêche que ça s'est fait. Et on ne peut pas le considérer comme un abus. Parce que souvent, on dit, oh, ben c'était dans les années 70 où on faisait. Non, non, ce n'est pas ça.
L'influence du
Hein.
protestant.
Je ne pense pas, parce
Il y a
que.
eu un nouveau.
Je ne pense pas, je ne pense pas, parce que le protestantisme a eu le même phénomène au XVIe siècle, mais au contraire, c'est plutôt l'influence du protestantisme qui a ralenti finalement ce type de phénomène. Je pense pas que. Je pense, parce que ça, c'était une critique. C'est comme la notion de repas et de sacrifice. On a dit que la messe, non, ça, c'est pas juste, pardonnez-moi, mais que la messe de
Non,
Paul
c'est ce qu'on a
VI
entendu.
était protestantisée. Alors, tu me laisses 3 minutes? Parce que, au moment du Concile de Trente, c'est très net, le Concile de Trente, et notamment en théologie eucharistique, a réaffirmé des vérités catholiques qui étaient remises en cause par le protestantisme, notamment les questions de présence réelle, ça serait nuancé hein, parmi les églises protestantes, et le caractère sacrificiel de la messe, ça c'est très net. Mais toutes les autres dimensions de l'Eucharistie qui nous étaient communes, comme la dimension communionnelle, comme la dimension de repas, comme la dimension d'anamnèse, de mémorial, le Concile de Trente ne les a pas traitées parce qu'elles n'étaient pas remises en cause. Et de sorte qu'on a eu une théologie eucharistique catholique pendant 3 siècles qui était centrée sur la présence réelle et le sacrifice. Et alors que le reste, j'allais dire la théologie communionnelle ou de repas, c'est le bien commun de toute l'Église. Tous les maîtres, alors là, de l'école française de spiritualité, qui sont très sacrificiels, mais sont tous augustiniens, donc tous ont en bien commun la dimension communionnelle de l'Eucharistie. Donc dire que la messe de Paul VI, qui retrouve également, qui rééquilibre, c'est vrai, qui rééquilibre les différentes composantes de l'Eucharistie, c'est une messe qui se protestantise, c'est pas juste. C'est une messe qui retrouve un équilibre des différentes composantes théologiques de l'Eucharistie qui avaient pu être déséquilibrées en insistant sur la présence réelle, et Dieu sait si c'est nombreux, et sur si c'est important, et sur le sacrifice, et Dieu sait si c'est fondamental. Mais je crois que là, il faut faire très attention. Je suis un peu ferme là-dessus, parce que, pas vis-à-vis vous, mais parce que on entend des choses qui ne sont pas justes.
Jean-Louis,
Oui.
il y a une personne qui
Oui.
veut venir. Il faut
Voilà.
lui
Ah ben,
ouvrir.
il faut lui ouvrir ici, non?
Oui.
C'est la
Non,
dame
non,
là?
non, 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 c'est
Je
Jean-Louis
suis
là.
devant lui. C'est à
Oui.
nous?
Voilà.
Vous m'entendez?
On vous écoute, voilà.
Voilà, merci. Alors oui, je voulais juste. Dans une question, c'est donc à propos de ce que le Seigneur nous a dit, voilà, quand Jésus a dit je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, il y a l'idée donc que le Seigneur nous appelle à continuer à vivre avec lui et peut-être à l'exemple de la vie qu'il a vécue avec nous et de façon publique pendant 3 ans. Et du coup, je me demandais quels sont les éléments de la liturgie qui nous permettent le mieux, voilà, enfin peut-être de l'ancienne ou de la nouvelle, qui nous permettent le mieux de vivre ce contact avec lui qu'on avait autrefois et en fait qu'il nous demande d'avoir encore aujourd'hui. Et par exemple, juste avant la communion, quand Jésus rencontrait les personnes, il leur demandait ce qu'elles voulaient. Il y avait un dialogue qui était instauré, espéré. Et à la suite de ça, en fait, il agissait par son corps, par une prière, ou aussi bien en posant la main, etc. Et donc ça correspond un peu à la communion, où c'est son corps qui vient agir sur nous. Et donc voilà, donc la question c'est, voilà, si on souhaite essayer de vivre le mieux possible cette demande du Christ de marcher avec lui, et non pas à côté de lui en l'ignorant, mais avec lui. Quels sont les éléments de la liturgie qui nous permettent de mieux le faire? Voilà. C'était juste éclairer la liturgie avec cette vision. Merci.
Moi, je répondrai spontanément, mais Gilles dira des choses sans doute d'autres choses. Mais il y a d'abord la parole même de
Oui.
Dieu, hein, la parole même de Dieu avec ce qui est aussi nouveau, et c'est une extraordinaire richesse de l'Évangile qui nous est donné jour après jour dans une lecture continue, hein, pour les messes de semaine et puis un autre rythme. Pour les messes dominicales. Je pense que c'est la proclamation même de l'Évangile au cœur de l'Eucharistie qui assure ce compagnonnage hein, du Christ et du chrétien, d'abord.
Oui, moi je partage complètement voilà se mettre à la suite du Christ, c'est d'abord écouter sa parole, hein, et on le voit chez les catéchumènes d'ailleurs, hein, donc ça c'est un lieu important, qu'on l'écoute dans la liturgie, hein, qui est son lieu, c'est fondamental chez les catholiques notamment, mais même en dehors, hein. Après, vous voyez, j'aime bien quand vous dites, alors quand vous dites bah, c'est son corps qui nous rejoint. Le théologien Louis-Marie Chauvet, il parlait des sacrements comme des paroles de Dieu au risque du corps. C'est-à-dire que le sacrement, c'est une parole de Dieu, mais qui nous touche. Vous savez, il y a toujours une dimension corporelle qui nous prend corporellement, parce qu'on est des êtres incarnés. Thomas d'Aquin, saint Thomas le disait, hein, vraiment fortement. Et le pape François, dans Desiderio, il a une formule, alors c'est des formules à François, hein. Il dit, oh ben, si vous étiez allé voir la première génération chrétienne, eh bien, pour rencontrer le Christ vivant, pour savoir qui il est, et je crois qu'il a tout à fait raison, ça serait même pas, alors il dit pas d'aller voir la Sainte Vierge, mais d'aller voir les apôtres, etc., et de leur demander comment il était, ça serait d'aller à la liturgie et d'aller à la messe. Et c'est, alors il le dit mieux que moi, mais c'est très intéressant. On le voit dans le récit d'Emmaüs ou le récit vous savez, Saint Thomas, si c'est 8 jours plus tard que le Christ revient, ben ça veut dire que c'est l'Eucharistie. Hein, et c'est-à-dire que le lieu, malgré tout, alors ça c'est le liturgiste qui parle, mais la liturgie est le lieu où la parole nous rejoint corporellement. Hein. Et elle nous rejoint, ben le Christ, et puis elle nous rejoint, c'est une parole agissante. Le Christ, c'est Saint Thomas, c'est Saint Léon le Grand qui disait, depuis que le Christ est remonté aux cieux, parce qu'il a une théologie de l'ascension, eh bien, les mystères du Christ, le mystère du Christ passe dans les mystères, c'est-à-dire dans les sacrements. Ben, dans le sacrement des malades, c'est le Christ qui continue à guérir. Dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est le Christ vivant qui continue à nourrir. Donc, vous voyez, il y a. Mais je n'opposerai pas parole à sacrement, puisque les sacrements sont une forme d'incorporation de la parole. Ça va? Ah, je ne sais pas, mais. Parce que. Mais l'écoute de la parole, hein, attention, c'est vrai que là aussi, il y a des équilibres. Alors là, pour le coup, en catholicisme, on a beaucoup, à juste titre, insisté sur les sacrements. Mais. Et d'ailleurs, maintenant, avec la réforme, grâce à Dieu. A dépassé ses oppositions, mais il ne faut pas opposer parole et sacrement, évidemment. Puisque d'ailleurs, là, en langage thomiste, la matière, la forme des sacrements est très fréquemment scripturaire et de tissu scripturaire. Vous voyez, les formules sacramentelles eh bien, sont pétries de réminiscences d'écriture. Donc, c'est évidemment, le sommet, c'est ceci est mon corps, ceci est mon sang, où c'est la parole de Dieu qui. Du Christ qui devient performative, mais même je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est une parole scripturaire qui est efficace dans l'action rituelle. Et l'absolution aussi. Mais toute, ou la confirmation, dimanche je vais confirmer, bien, sois marqué de l'Esprit Saint, le nom de Dieu. J'avais fait un petit article là-dessus. Il y a des réminiscences. Alors, ce n'est pas directement scripturaire, mais c'est pétri d'écriture.
Juste une petite chose, une
Bon.
petite,
À
un petit fois.
toute la liturgie.
Est-ce que je peux juste rajouter une petite chose? Parce que qu'en fait, quand je vous ai, quand, en vous entendant, notamment parlant du baptême. Avec dans la nouvelle liturgie quelque chose qui est beaucoup plus centré sur l'eau, enfin, donc l'acte lui-même, j'avais l'impression que justement dans la nouvelle liturgie, on arrivait en fait à se centrer sur des points, sur des moments précis de la vie du Christ et des actes du Christ, donc le baptême, ben voilà, il s'est même fait baptiser lui-même. Et du coup, par exemple, quand vous disiez l'Eucharistie, enfin, sacrifice, mais c'est d'abord un repas donc une joie, et le Seigneur c'est qui nous dit si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez que je retourne vers le Père. Donc il y a bien l'idée de justement de cette finalité. Et donc il m'avait semblé en vous entendant que la nouvelle liturgie essayait de reprendre dans le concentré d'une messe des éléments très précis. De la vie du Christ avec nous et des actes qu'il a posés et des voilà pour nous et avec nous.
Je ne suis pas sûr, mais ça mériterait. Je ne suis pas sûr que la nouvelle liturgie soit différente de l'ancienne sur ce point-là. Oui, mais pardon, ça pour être. Je ne suis pas sûr. Alors, je me permettrai là aussi de réagir, parce que. Et puis, je regarde le frère Gilles. Mais quand vous dites elle est d'abord un repas, moi je ne dirais pas ça, ce n'est pas ce que dit le chanoine l'Allemand. Parce que, d'ailleurs, le premier acte, il est sacrificiel pour lui. C'est le sacrifice qui conduit au repas. Elle est un sacrifice finalisé par un repas. Mais parce que si vous dites elle est d'abord un repas, ben, ça veut dire que vous êtes, pardonnez-moi, mais que vous êtes toujours dans repas ou sacrifice et que finalement, vous déplacez le curseur vers le repas. Ce n'est pas ce que fait le chanoine. Hein? Pardonnez-moi, c'est le côté peut-être prof, mais je crois que, vous savez, dans ces questions-là, c'est tellement sensible en catholicisme qu'il faut qu'on fasse attention. Hein, parce que, à cause du contexte, en France notamment, je ne sais pas dans la belle province comment c'est, mais nous, on est très sensible sur ces questions eucharistiques. Donc, il faut être, à mon avis, précis, quoi.
Une question.
La question de la communion sur la langue ou dans la main, comment on peut se poser?
La question posée est celle de la communion dans la langue ou sur la main.
La recevoir ou la prendre? La prochaine. Le chanoine.
Non, il n'en parle pas.
Non, non.
Le chanoine n'en parle pas. Tu as raison, hein, il parle des textes. Il parle des textes. Alors là aussi, hein, la nouvelle, la réforme liturgique a laissé ces questions-là aux soins des conférences épiscopales. Et la conférence épiscopale française a donné la possibilité de communier dans la main. Mais elle ne l'a pas obligé. Hein. Alors c'est vrai que après le Concile, il y a eu la pratique courante était la communion dans la main et il y a un rééquilibrage. Le Père Gilles a écrit des choses intéressantes là-dessus. Oui, mais.
Ah non, c'est pas le Père Gilles. Le Père Gilles, qui est
Ah non, le
un de
Père Gilles.
nos
Non, pas le
maîtres.
Père Gilles, Jean de Sombinius. Non, c'était un maître.
C'était un maître en.
Ben, il a montré dans un dialogue fameux avec Jean-Claude Le Goff, un grand historien de l'école des Annales, que c'est assez impressionnant, hein, alors il le détaille, qu'on est passé de la communion à la main à la communion dans la bouche au moment où on communiait beaucoup moins, déjà. Hein, donc un rapport qui a changé avec l'Eucharistie, un rapport un sentiment d'indignité. Et puis, alors, assez étonnamment également, au moment, alors chez les laïcs, parce que les prêtres ont toujours touché et au moment, eh bien, où on a, non pas imposé, mais où s'est généralisé le célibat des prêtres. Donc il y a un changement de rapport où on a sacralisé le prêtre, qui était l'homme dont les mains étaient suffisamment pures, et on s'est mis à les oindre au même moment. Alors tout ça, c'est des concomitances. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a concomitance qu'il y a un rapport de cause à effet. Mais les historiens, ils disent, il y a un moment où le rapport à l'Eucharistie et le rapport entre l'Eucharistie et le prêtre ont changé. Le prêtre est devenu l'homme sacré de l'Eucharistie. Et donc le prêtre, eh bien, il avait les mains suffisamment pures puisqu'il était célibataire. Hein? Alors ça, là, le Père Gilles ne dirait pas puisque, hein, mais il met des choses en relation. Donc vous voyez, on change d'univers. Et donc, et on s'est mis à lui consacrer les mains. Alors là, ça poserait d'autres questions. Et donc, vous voyez, il y a aussi toute une histoire dans cette question-là, qui touche des questions anthropologiques profondes.
Oui, frère Gilles, vous avez dit que le chanoine de l'Avent avait eu un angle mort, mais
Oui.
je crois pas que vous
Ah
disiez plus lequel.
oui. Je pense que dans ce qu'il nous dit, en particulier l'Eucharistie, il parle de la face lumineuse de la réalité du monde, et même lorsqu'il parle de la passion du Christ, il en parle comme d'un sacrifice, mais surtout comme d'une oblation, c'est-à-dire le sacrifice compris comme offrande. Il rappelle davantage dans le petit livre que dans les textes que nous avons étudiés en cours d'année la dimension réparatrice, expiatoire même du sacrifice. Il n'explicite pas du tout. Et ailleurs, il ne prononce même pas les termes. Or, la rédemption, certes, c'est sa finalité, et c'est merveilleux de lire le chanoine allemand là-dessus. La rédemption, elle nous ouvre, elle nous introduit dans le mystère de la Trinité. Mais la rédemption, elle nous arrache aussi au péché. Lorsque le chanoine allemand parle du péché, il en parle comme le fait d'être comme englué dans le créé. Hein. Il a ces mots que nous avions relevés, hein, le sacrifice de la croix nous arrache à une certaine complaisance dans les créatures. Mais ce n'est pas tout de la réalité du mal. Ce n'est pas tout de la réalité du mal à laquelle le Christ s'affronte. dans sa passion. Il y a quelque chose de la méchanceté des hommes et de leur violence qui n'est pas présent dans ces paroles. Alors que l'Eucharistie aussi est célébrée dans ce contexte-là. L'Eucharistie, nous faisons mémoire d'un sauveur torturé, comme l'a bien dit quelqu'un comme Cavano. Et l'Eucharistie, c'est le Christ rassemble son corps parce que le corps a été brisé par le péché. Et là, il y a quelque chose qui me semble absent de la perspective du chanoine allemand et plus généralement même des textes par ailleurs assez extraordinaires, mais où il nous parle du salut et de la rédemption. C'est comme si cette méchanceté du pécheur avec laquelle nous sommes parfois aux prises, il ne voulait pas en parler ou il n'en parlait pas. Or, si vous voulez, la croix, c'est la victoire du bien sur le mal, et c'est la miséricorde, ce n'est pas seulement Dieu qui se penche sur les créatures limitées que nous sommes, mais c'est Dieu qui pardonne à celui qui lui fait du mal, et ce triomphe-là est glorieux. Je veux dire que c'est aussi à travers cette lutte cruelle que Jésus mène contre le mal que sa puissance divine transparaît. Moi, je suis très marqué dans cette lecture aussi par ce que Girard dit de la violence et du sacré. Hein. Alors Girard, à mon sens, surtout le premier Girard, parce qu'il va évoluer à une vision du sacrifice qui n'est que négative, et alors là, on ne retrouve évidemment pas Augustin Thomas, mais il nous dit quand même quelque chose de cette violence, et c'est absent dans le texte du chanoine allemand. Et ce qui me gêne, c'est non seulement que bon, ça fait partie de notre réalité, mais que la grandeur du Sauveur, elle se manifeste dans le pardon donné à celui qui l'a offensé. Le chanoine allemand n'en parle pas. Voilà, c'est la remarque que j'ai déjà faite, hein,
Alors, moi, je me permets, je ne connais pas assez le chanoine allemand pour porter ce diagnostic. Ce que je dirais simplement, c'est que cette dimension de l'Eucharistie est présente dans les textes du Concile Vatican II, hein, dans les textes liturgiques. C'est-à-dire que, et c'est peut-être qu'il en fait une lecture un peu ironique, ou entre guillemets, parce que, par exemple, dans la prière eucharistique 3, eh bien, le sacrifice est offert pour la rémission des péchés, etc. Cette dimension, elle est présente. Hein. Il y a peut-être eu un rééquilibrage,
Oui.
mais
Alors, le chanoine allemand la mentionne, mais il ne l'approfondit pas. Alors qu'il approfondit tellement les choses, peut-être qu'une des raisons, mais ça nous comprenons mieux aujourd'hui, hein, c'est qu'il y a un attachement très fort du chanoine allemand à l'Église et une sorte de loyalisme absolu par rapport à l'Église. Or, l'Église n'est pas une communauté idéale où la violence serait absente. L'Église, c'est une communauté qui se rassemble avec les êtres qui la compose et qui se rassemble en traversant à la lumière du pardon qui nous est donné nos faiblesses et notre méchanceté, parfois notre violence, etc. Et il faut donc savoir la reconnaître même dans l'Église. Mais ça, je pense que peut-être que le chanoine allemand, voilà, je ne vais pas dire par voie
Pas juste une
révolutionnaire.
remise, parce que moi, il me semble, dans le traité de l'Eucharistie, dans la
Dans la
somme, c'est
somme,
très positif, il y a un optimisme, l'eumisme, en général.
C'est une critique. Alors, la question posée est de savoir si, au-delà du chanoine allemand, ce n'est pas le thomisme lui-même qui a une vision très positive des choses. Alors, qu'il ait une vision très
Parce que c'est
positive,
finalisé,
voilà,
justement, tout est finalisé.
oui, je pense que c'est vrai, mais c'est souvent une critique que l'on fait justement au thomisme, hein, c'est d'occulter une certaine, d'occulter la violence, de l'occulter. Alors, bien sûr, des choses, hein, sur la haine, il dit des choses sur le commandement de la charité, surtout, qui s'y oppose, sur la force chrétienne, dans le martyr, on trouve des choses comme ça chez Thomas. Mais on ne peut pas dire que ce soit tragique de l'existence qui soit au cœur de son message. Or, il y a des situations, il y a des vies, il y a des moments dans l'existence où on a peut-être besoin d'une parole qui nous dit cela et la manière de traverser.
Parce qu'on est encore en chrétienté au Moyen-Âge aussi.
Oui.
Sauf qu'avec le XXe siècle, les grands drames du XXe siècle,
C'est sûr.
on a
C'est
changé
sûr.
notre regard sur l'histoire du mal.
Oui, mais tu vois, si je reviens au texte liturgique que je connais un peu moins mal, j'avais posé la question au frère Gilles, à savoir si le chanoine allemand avait été en relation avec l'Orient, parce qu'on voit bien qu'il est fasciné, comme beaucoup de son temps, par la redécouverte des grandes prières de l'Orient et tout. Et ces grandes prières, elles sont fortement prioritaires et fortement eschatologiques, mais elle n'élude pas du tout la condition pécheresse et la violence, y compris la violence de la création. On voit bien dans la liturgie de Saint-Basile, on prie que le Seigneur nous épargne des tremblements de terre. On voit il y a vraiment une mise en compte du tragique de la condition humaine, même si il y a une ouverture sur un au-delà lumineux. Non, c'était, pardon, je trouve que c'est assez juste. Alors, est-ce que ça ne serait pas, oui, il y a une ecclésiologie de l'Église, société parfaite, comme tu. Je ne sais pas. Je sais pas.
Est-ce qu'il y a des
Est-ce qu'il
questions
y a
dans
des
les
questions
personnes qui sont au loin en
dans
visio?
les
Parce que vous êtes
personnes
nombreux, mais
qui
voilà,
sont
n'hésitez pas. On a encore
au
quelques minutes.
loin en visio? La violence de la création.
La question posée concerne le texte du pape François, l'encyclique Laudato Si. Est-ce que ce texte aussi n'élude pas la question de la violence et du mal?
Alors, je vais balbutier quelques petites choses. On avait eu un colloque à l'Institut catholique, justement, sur la dimension cosmique de la liturgie après Laudato Si. Et c'était la grande critique qui avait été faite notamment par une collègue, par Brigitte Cholvy, en disant qu'on pouvait avoir une théologie de la création. Il y a quand même, bon, je pense au tremblement de terre de Lisbonne, etc. En revanche, c'est pas impossible. Ce que je dirais simplement, sans répondre directement à votre question, mais c'est en lien avec l'échange qu'on a eu au départ sur Lyon, c'est que pour moi, personnellement, je trouve que, bon, je l'ai écrit, mais que Laudato Si a une approche de la théologie de la création qui est vraiment, qui relève quasi intégralement de la théologie morale. Polluer, c'est pas bien, on voit pourquoi. Mais qu'il y a une faiblesse de Laudato Si, qui est un texte, un très grand texte, hein, c'est pas la question. Il y a deux ou trois petits numéros qui, justement, alors c'est un peu à l'inverse, mais évoque une théologie de la création enracinée sur une attitude eucharistique d'émerveillement. Et en revanche, le texte Desiderio Desideravi du pape François, qui ne porte pas sur la question écologique, mais sur la question liturgique, eh bien, complète, à mon avis, et rééquilibre très utilement Laudato Si. Très, très utilement. Quand vous écoutez, par exemple, j'avais été marqué quand il était venu à la Cato pour avoir son docteur honoris causa, le patriarche Bartholomée, qui est héritier de la tradition byzantine, eh bien, un oriental, quand il fait une théologie de la création, il commence par l'Eucharistie, hein, dans la ligne de ce que je disais précédemment. Hein, par une vie eucharistique, par le rapport au monde, hein, qui voit dans le monde un monde déjà transfiguré, etc. Ça ne répond pas directement à votre question. Mais Laudato Si, alors justement, Laudato Si a une approche très occidentale, enracinée dans la théologie morale, me semble-t-il. C'est plutôt aussi cette limite du texte que la limite, oui. Et je pense que le rééquilibrage opéré par Desiderio Desideravi et n'a pas été suffisamment souligné, mais est important. Il y a un colloque, une semaine liturgique de l'Institut Saint-Serge sur ces questions au mois de juin avec nos amis orthodoxes. C'est intéressant de comparer finalement, parce que le monde byzantin, le monde orthodoxe, a une réflexion sur l'écologie, une approche occidentale et une approche orientale. Et
C'est
c'est
vrai que
vrai
la
que la
création,
création, C'est ce que Guéché parle en métaphore entre le mal-malheur et le mal-moral. Mais le mal-malheur existe pour une action. Oui. Et tout n'est pas imputable à l'action de l'homme. Oui. Oui.
Est-ce qu'il y a encore des questions ici ou là-bas? Il est 22 h, mais on peut continuer encore 2 minutes. Si vous parlez, est-ce que vous envoyez d'autres bienfaits? Parce que lui, il ne prétend pas avoir fait un traité complet, là, c'est quelques réflexions qu'il nous partage, le chanoine. Et vous, comme liturgiste, dans la nouvelle liturgie, quel autre bienfait vous pourriez nous.
Le grand bienfait pas évoqué, hein, mais bah, c'est le lectionnaire. C'est vraiment l'élargissement du trésor de la parole de Dieu. Attends, précédemment, on lisait quand même l'ancienne liturgie, je dis toujours, nous a transmis la foi, hein, c'est pas le problème. Hein, mais quand même, oui, hein, on est tous des héritiers de cette tradition. Hein, il faut, mais on ne lisait pas le Fils prodigue, par exemple, dans la liturgie. Bah, quand même. On lisait très peu de prophètes, quand même, très peu d'Ancien Testament. Donc vraiment, là, alors, je crois que c'était d'autres, mais à mon avis, ça, c'est quand même massif, le lectionnaire.
Oui.
À tel point que pour les prédicateurs, des fois, on est un peu enseveli sous la richesse.
Oui, très.
C'est pas toujours
C'est un autre
simple.
problème.
Ça, c'est un autre problème, mais quand même, non, quand même.
L'étalement sur 3 ans.
Oui, l'étalement sur 3 ans, le retour du psaume responsorial, on n'avait que quelques versets, le fait d'avoir 3 lectures au lieu de 2, donc on n'avait pratiquement que l'épître, on a la place pour l'Ancien Testament. Non, là, il y a quand même aucun système de lectionnaire n'est parfait. Il y a plusieurs, on peut distribuer différemment l'écriture, mais là, on a une ampleur à tel point que le lectionnaire romain a été adopté par de nombreuses églises de la Réforme. Oui, elle l'est encore. Hein. Oui. Alors, avec des adaptations, toujours, évidemment, mais quand même, non, c'est un. Je pense que. Oui, c'est un réel et massif bienfait, me semble-t-il.
Le chanoine allemand parle dans d'autres ouvrages de la liturgie des heures
Ah oui.
aussi pour la raison hein, de la richesse des textes qui sont présentés. Mais c'est vrai que dans la célébration quotidienne, parfois on en a trop. Je veux dire, quand on lit l'office des lectures,
Ah oui,
quand on lit,
comme
on en a trop pour les assimiler d'une certaine manière. Mais là aussi, la liturgie n'oblige peut-être pas toujours à tout lire.
il y a
Enfin,
des communautés, d'ailleurs c'est
hein,
permis par
oui.
qui remplace le capitule, c'est un peu technique, des laudes et des vêpres par l'évangile et l'épître du jour pour permettre.
C'est ce qu'on fait ici pour
Oui.
le matin.
Oui, et vous avez le droit.
Oui, non, mais si on l'a fait, c'est ce qu'on se
Non, je te dis ça parce que c'est le thésaurus monasticus le permet. Et puis, alors, bon, tu as évoqué le roi. Alors, ça c'est mal reçu, mais ça commence à l'être. C'est pas suffisamment reçu, mais quand même, le Concile Vatican II en vient à affirmer, nous a demandé à ce que la liturgie des heures ne soit pas simplement réservée aux clercs, mais que c'est la prière de tout le peuple chrétien. Alors, c'est pas tout à fait reçu. Mais j'allais dire mettre à disposition les psaumes, là, pour moi c'est le cœur de ma prière, mais c'est pas, mais comme prière du peuple chrétien, eh bien je pense que là on en est loin encore, et moi je baisse pas les bras, hein, parce que certains disent c'était trop ambitieux, mais là vous voyez la réception, je ne veux pas vous transformer tous en frères dominicains ou en frères et sœurs, mais il y a beaucoup de gens hein, qui lisent, vous savez, Magnificat, l'ELF, etc. Et là, je pense que la réception est largement inachevée parce que les psaumes, là, pour le coup, c'est quand même une parole terriblement humaine qui est assumée comme parole de Dieu. Hein, et là,
Les uns, c'est 5 fois par jour.
non, mais vous pouvez en faire des versions allégées. Il y a les grandes heures.
Mais ce qui est dit, je dis pour nos amis en ligne, c'est parmi les bienfaits de la liturgie actuelle, c'est la place de l'Assemblée, la participation de l'Assemblée à la liturgie.
Est-ce qu'il n'y a pas, ça je ne suis pas spécialiste, mais est-ce qu'il n'y a pas une plus grande possibilité d'inculturation pour le meilleur ou pour le pire, dans certains cas, selon le jugement des pasteurs? Mais est-ce qu'elle ne permet pas un peu plus d'adaptabilité selon les lieux, les cultures?
La question posée, c'est celle de la possibilité d'inculturation, d'adaptabilité de la liturgie actuelle.
Alors, je vais peut-être répondre par une pirouette, mais dans le début de l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Châteaubriand va à la messe à la cathédrale de Palerme. Et il explique, il sait exactement même qu'à Paris ou à Beaubourg à l'époque, qu'il se demande s'il est dans la même religion. C'est-à-dire que c'est ça, parce que, vous savez, l'inculturation, elle se fait. Elle ne se décrète pas, elle se fait. Quand vous allez en Afrique, alors ça aurait été peut-être pareil. En Afrique, nos confrères africains, ils sont très stricts sur le respect des rubriques, mais n'empêche que la messe dure 2h30. C'est-à-dire que l'inculturation se fait. Donc, je ne suis pas sûr que. Bon, évidemment, il y a la langue. C'est quand même une question massive de la langue. Mais la liturgie, elle s'est toujours inculturée. Ma collègue, elle montre très nettement que quand la liturgie a franchi les Alpes, la liturgie romaine, et qu'elle a affronté le monde de Gaulois et le monde germanique, elle s'est transformée. Donc, je suis d'accord, parce qu'on a souvent une vision descendante de l'inculturation, mais vous savez, l'inculturation, elle se fait. Je le crois vraiment. Profondément, mais elle ne se fait pas forcément comme les théologiens voudraient qu'elle se fasse, qu'est-ce que vous voulez.